Je vous invite à ouvrir la Bible dans l'évangile de Luc au chapitre 8. L'évangile de Luc au chapitre 8, et on va lire à partir du verset 26. On va parler d'un homme, et on en a déjà parlé plusieurs dimanches, mais je l'avais encore à cœur, donc écoutez, on va encore en parler. Donc, on va lire l'histoire de cet homme, le récit en tout cas de ce qui s'est passé pour cet homme dans l'évangile de Luc au chapitre 8 et au verset 26. Donc il est parlé de Jésus et ses disciples, il nous est dit « Ils abordèrent dans le pays des Gérasiens qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements, et il avait sa demeure, non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds, et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et de fer aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. » Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Gérasiens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait ». Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Amen. On a ce récit où l'on voit dès le début Jésus qui vient dans ce territoire où le nom n'est pas facile à prononcer, Gérasénien, chez les Gérasiens ou à Gadara dans d'autres versions. On voit donc que Jésus, il est venu en bateau, il traverse un lac et il arrive dans cette contrée de Galilée. Et on voit que dès qu'il descend, hein, c'est écrit au verset 27, « Lorsque Jésus fut descendu à terre », donc ce n'est pas quelques temps après, c'est au final dès qu'il sort du bateau, il y a cet homme qui arrive. Et puis on voit à la fin du récit, au verset 37, dès que les habitants ont vu ce qui s'est passé, tous les habitants du pays prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque, et s'en retourna. On peut dire que son séjour dans cette contrée n'a pas été d'une très longue durée. À votre avis, combien de temps il a fallu ? Je ne sais pas, quelques heures. Dès qu'il arrive, il y a ce possédé qui arrive et Jésus le libère. Les gens voient ça, ils répandent la nouvelle. Et puis ces gens de la contrée viennent voir Jésus et lui disent « On préfère que tu t'en ailles ». Donc on se dit qu'il n'est pas resté très très longtemps. Pourquoi Jésus il était venu dans cette contrée ? On pourrait se dire peut-être qu'il était venu pour parler aux foules. Il allait aller de village en village comme il faisait régulièrement. Mais on voit au final qu'au travers de cette histoire, il est venu juste pour cet homme qui était possédé. On voit au final que ce qui intéresse Jésus, ce n'est pas forcément les foules. Ce qui l'intéresse à lui, ce n'est pas le nombre de personnes. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est nos vies particulières. Et s'il faut qu'il fasse le déplacement, un long déplacement, traverser un lac, pour rencontrer une seule personne, pour aider une seule personne, il le fera. S'il faut qu'il dépêche un homme pour aider seulement une seule personne, il le fera. On le voit avec l'eunuque éthiopien, à un moment, le Seigneur va dépêcher un de ses disciples. Pourtant, il y avait un grand réveil qui se passait, il y avait beaucoup de personnes qui se tournaient vers Jésus, mais pour une personne, Dieu a pris cet homme et l'a envoyé. Ce qui compte à Dieu, ce qui compte pour Dieu, c'est ce que nous sommes nous, une seule personne. On a une autre parabole dans la Bible où il nous montre que le berger peut laisser ses 99 brebis pour aller chercher juste celle qui s'est perdue. On voit que pour une âme, pour une seule personne, Jésus a fait le déplacement. Et pour vous, c'est pareil. Peut-être que vous vous dites, oui, c'est bien ce que Jésus fait pour les autres, pour les gens qui sont dans l'église. Mais pour une seule personne, Jésus s'est déplacé. Et pour vous, Jésus est venu. C'est vrai qu'il est venu pour le monde entier. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc il a aimé le monde entier, afin que quiconque, c'est-à-dire pour que les personnes, une à une, personnellement, quiconque croit en lui, soit sauvé. Est-ce que la première chose que l'on peut voir, c'est que Jésus vous aime personnellement. Dieu t'aime. Et parce qu'il t'aime, il est venu. Il est venu. Alors dans ce texte, on voit qu'il y a quelques caractéristiques de cet homme qui était possédé. On voit au verset 27 qu'il nous est dit que cet homme, depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et il avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Il y a d'autres versions qui disent dans les tombeaux. On voit que cet homme, il n'habitait pas là où habitent les gens d'habitude, dans leur maison, il habitait dans les tombeaux. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est comme si c'était quelqu'un qui vivait dans un cimetière. C'est étonnant. Cet homme, il côtoyait tout le temps la mort. C'était son lot. Il n'était pas avec les vivants, il était avec les morts. Et vous savez, on voit dans cette histoire vraiment l'influence des démons et du diable. On voit vraiment que ce que font ces esprits impurs, parce que la Bible nous montre qu'ils existent, c'est de pousser les gens vraiment vers la mort. Et c'est vrai que quand on regarde la société, il y a une sorte de culte de la mort. Enfin, vous voyez des têtes de mort partout. Les gens préfèrent ce qui est laid, la mort, aux choses qui sont à la vie. Enfin, je ne sais pas, moi, ça m'étonne tout le temps de voir des petits-enfants qui sont hauts comme ça, qui ont sur leur sac à dos pas des fleurs, mais des têtes de mort. Bon, en rose, mais c'est bizarre. C'est bon. On voit vraiment que le monde dans lequel on vit ne va pas dans la bonne direction. Mais en tout cas, au-delà de ces puissances occultes, de ces esprits mauvais, la Bible nous dit que ce qui produit la mort, c'est le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et on voit que quand les gens y pêchent, eh bien, ça produit des choses qui ne sont pas belles, ça produit la mort éternelle. On voit vraiment que la première chose pour cet homme, c'est qu'il vivait dans les sépulcres. Il était tout le temps dans la mort. Ensuite, il nous est dit qu'il ne portait pas de vêtements. C'est-à-dire qu'au final, il était dans la nudité. Et ça, surtout dans le contexte de l'époque, ça nous parle de la honte. Et c'est vrai encore là aussi, dans notre société, c'est bizarre. Combien tout est porté vers ces choses-là, vers la nudité. Et on voit au final que cet homme-là, il avait pas ses vêtements. Il vivait dans la honte. C'est-à-dire qu'il avait perdu sa dignité. Vous savez, quand quelqu'un est bien habillé et un peu coquet, il y a une sorte de dignité. Et puis quand on enlève ces choses, c'est la honte. On voit que cet homme, il vivait pas dans la ville. C'était un homme de la ville, donc il venait d'une ville, mais qu'il vivait dans les montagnes, dans les tombeaux. Il y a un texte qui dit dans les déserts. On voit la solitude. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Il y a tellement de moyens de communication, mais les gens sont tellement seuls. C'est impressionnant. Il nous est dit, au verset 29, que les démons s'étaient emparés de lui depuis longtemps, et on le gardait lié de chaînes et de fer aux pieds, mais il rompait les liens, et il était entraîné par le démon dans les déserts. Donc on voit que cet homme-là, il avait une sorte de violence, une sorte de force surhumaine qui faisait qu'il rompait les liens. Imaginez, c'est impressionnant. On prendrait une personne, on l'attacherait avec des liens, des chaînes de fer, Puis cette personne-là, clac. Bon, cette force, elle venait pas de lui. Hein. Elle venait des démons. C'est eux qui étaient forts. C'est pas humain de casser du fer à la force de nos bras. Mais on voit que cet homme, oui, il paraissait libre, parce que personne ne pouvait le lier, personne ne pouvait l'empêcher, et pourtant, il était entraîné, comme s'il était lié lui-même par des démons dans le désert. Et on voit que cet homme, humainement, semblait libre, mais intérieurement, il était complètement lié. Il ne faisait pas ce qu'il voulait. Il était vraiment... il était esclave de ces esprits mauvais. Et vous savez que la Bible dit que les hommes sont... que tout le monde est esclave de ce qui a triomphé de lui-même. Et vous savez, c'est vrai que là, dans ce texte, il nous est parlé des démons, mais le péché, c'est pareil. Le péché, ça rend esclave. L'apôtre Paul dira, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. On voit qu'au final, Paul, quand il explique ce que c'est que lorsqu'on est dans le péché, il explique au final qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Je pourrais vous poser la question, est-ce que vous faites le bien que vous voulez? Est-ce que vous arrivez à ne pas faire le mal que vous ne voulez pas faire? Ça, c'est une question. Parce que si vous ne faites pas le bien que vous voulez faire, c'est qu'il y a quelque chose qui est plus fort que vous. Et si vous êtes obligé de faire le mal que vous n'aimeriez pas faire, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est plus fort que vous. La Bible nous dit, nous donne ce que c'est que cette chose-là, elle s'appelle le péché. Et la Bible nous explique que tous les hommes sont des pécheurs, que tous les hommes sont esclaves de quelque chose en eux qui est plus fort qu'eux, qui s'appelle le péché. Et quand on est esclave de quelqu'un, tout comme cet homme, est-ce que cet homme pouvait s'en sortir par lui-même? Est-ce qu'il pouvait, par ses propres forces, extirper ce qu'il y avait en lui? Non. Est-ce que les autres hommes, ceux de la ville, pouvaient aider ce jeune homme? Au moins, il se blessait lui-même, c'est le point d'après. Est-ce qu'ils arrivaient même à empêcher cet homme d'être blessé? Non. Personne n'arrivait à trouver une solution pour cet homme. Il n'y avait que Jésus. Et quand on est esclave de quelqu'un, ben on a besoin de quelqu'un d'autre pour nous sauver. Parce que par nous-mêmes, on ne peut pas. Et c'est pour ça que Jésus est un sauveur, et c'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu pour nous sauver de ceux dont nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Si encore il y avait eu un moyen pour qu'on puisse s'en sortir par nous-mêmes, mais il n'y en a pas. La Bible nous dit qu'il n'y a, il y a qu'un seul nom qui nous a été donné, il n'y a qu'une seule personne qui est venue pour que nous puissions être sauvés, et cette personne, c'est Jésus-Christ. On voit que cet homme aussi, si on va lire la même histoire dans Marc au chapitre 5, ne le cherchez pas, il est écrit qu'il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. On voit que cet homme, nuit et jour, il criait, et il allait sur les montagnes, il allait dans les sépulcres. On voit qu'il n'avait pas de repos, pas de repos. Que ça soit le jour, que ça soit la nuit, cet homme, il était tourmenté, il était errant. Vous savez, quand vous êtes à un endroit, vous n'avez pas la paix. Alors vous allez ailleurs, mais vous n'avez pas la paix. Vous allez encore ailleurs, et vous n'avez pas la paix. Au final, on est errant, on cherche l'endroit où on pourra se reposer. Les hommes, c'est ce qu'ils cherchent, la paix intérieure. Alors, ils le cherchent dans de la méditation, ils le cherchent dans du yoga, ils le cherchent dans l'activité. Certains le cherchent dans le travail, certains le cherchent dans des relations, etc. Certains le cherchent dans la famille. Et finalement, il n'y a jamais cette paix. On voit que cet homme, bon, c'était à cause des démons, mais pareil, le péché, c'est ce qui nous enlève la paix. Il y a plein de psaumes qui nous montrent que lorsque l'on pêche, on est tourmenté intérieurement. On n'est pas bien à cause de ce que l'on a fait. Il nous est dit, nuit et jour, donc dans les sépulcres et sur les montagnes criant, et se meurtrissant avec des pierres. Et on voit que cet homme, il se faisait du mal à lui-même. Il se meurtrissait. Vous avez déjà vu? Ça, c'est de plus en plus répandu. Vous avez remarqué les jeunes qui se scarifient, qui prennent des objets coupants et clac, ils se font du mal. Ils se meurtrissent. C'est bizarre. C'est pas naturel. Même les animaux ne font pas ça. Et pourtant, on voit que cet homme se faisait du mal. Et c'est vrai qu'on peut remarquer que dans notre société, à cause là aussi du péché, à cause de la culpabilité, à cause de ce que les gens ont fait, le mal qu'ils ont fait, bah oui, quand on a fait le mal, au bout d'un moment, on ne s'aime plus soi-même. Et quand on ne s'aime plus soi-même, qu'est-ce qu'on fait? On se fait du mal. On se fait du mal. Et combien dans notre société, on voit des personnes qui, au lieu de se faire du bien, de faire du bien à ce qu'ils sont, de respecter leur corps, le meurtrissent, lui font du mal. Lui font du mal. Donc on voit ces différentes caractéristiques pour cet homme. Et c'est vrai que cet homme, c'était à cause du fait qu'il était possédé, mais on voit quand même qu'il y a un parallèle avec le péché. Donc si on récapitule, il vivait dans les tombeaux. Il vivait dans la honte, dans la nudité. Il vivait dans la solitude, dans le mépris des autres. Il vivait dominé, il était lié. Il n'était pas dans le repos, il était tourmenté, il errait. Cet homme se meurtrissait, il se faisait du mal à lui-même. Et là vraiment, on voit ce que c'est que l'œuvre de l'ennemi. Et c'est vrai que lorsque l'ennemi, Satan, a fait pécher l'homme, il y a comme un venin qui est rentré dans notre nature, c'est le péché. Et ce péché-là, le péché produit les mêmes effets que ces mauvais esprits. Mais on voit que cet homme va croiser la route de Jésus. Il va croiser la route de Jésus. Et que dans ses difficultés, parce que là, s'il y avait vraiment, on pourrait dire, un homme dont le cas était désespéré, c'est celui-là. Il nous est dit qu'il a été possédé d'une légion de démons. Vous savez combien ça fait une légion? Je suis allé regarder tout à l'heure. Les légions romaines. 11 000. Ça en fait du monde. Hein. 11 000, c'est beaucoup. Vous imaginez un homme face à ces 11 000 démons? C'est compliqué. Alors on pourrait dire s'il y en a un qui était, j'ai une expression, je ne peux pas la dire, qui était mal, enfin qui allait vraiment pas bien sur cette terre, c'était lui. Hein. Lui, son avenir, on ne peut pas dire qu'il était bon. Mais on voit qu'il va croiser la route de Jésus et que pour cet homme, pourtant qui était misérable, qui était dans la misère, Jésus s'est déplacé et il est venu pour lui. Et j'aimerais qu'on lise un texte dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53. Dans ce livre, le prophète Ésaïe, des années avant que Jésus arrive, vienne sur terre, ce prophète a prophétisé et a annoncé la venue de Jésus. Et vous allez voir qu'on a parlé de tombeau, de sépulcre, on a parlé de honte, de mépris, de solitude, on a parlé d'errance, on a parlé de tourment, on a parlé de meurtrissure, et vous allez voir que ces mots y reviennent lorsqu'il est parlé de Jésus. Regardez. Ésaïe chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Et ça, ça a été écrit bien avant que Jésus vienne. On voit que cet homme, il vivait dans les tombeaux. Il venait d'ailleurs des tombeaux. Et il a croisé Jésus. Et lorsqu'il a croisé Jésus, on voit que ensuite, il était resté assis au pied de Jésus. Et on se doute qu'après, ensuite, quand Jésus va lui dire, va dire aux autres ce que le Seigneur a fait pour toi, ensuite, il est retourné dans les villes. Il est retourné dans sa demeure. Vous êtes d'accord? Mais lui, Jésus, il venait du ciel. Il a traversé, il était sur la terre, il a traversé la mer pour rencontrer cet homme. Mais après, où est-ce qu'il est allé? Il est allé au tombeau. Et on voit que oui, cet homme venait des tombeaux, Jésus l'a libéré, mais ensuite Jésus, lui, il est allé au tombeau. Vous voyez, il y a comme un croisement. Et au final, c'est quoi qui produit la mort? On a vu que c'est le péché, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais si cet homme a pu être délivré des tombeaux, si cet homme a pu être délivré de la mort, c'est parce que c'est Jésus qui est mort pour lui. Et si cet homme a pu être extirpé de là où il était pour avoir une demeure, c'est parce que Jésus a quitté sa demeure pour aller au tombeau. Et si cet homme a pu être avec les vivants alors qu'avant il était avec les morts, c'est parce que Jésus, lui qui était bien vivant, a accepté de mourir pour nous. On voit dans l'Ésaïe 53 au verset 9, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Au verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et vous avez vu, il est dit, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il a livré sa vie pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Vous avez vu, c'est parlé de la résurrection. Après avoir livré sa vie en sacrifice, la mort, il verra une postérité. Une postérité, c'est des enfants, c'est quand on donne la vie. Déjà, dans ce texte, des centaines d'années au préalable, Dieu annonçait que par son serviteur, par Jésus-Christ qui mourrait, cela produirait la vie, produirait une postérité. C'est intéressant. Déjà, il y avait la résurrection. Et si on peut être vivant, si on peut ne plus être sous le salaire du péché, ne plus être attiré vers ces choses de mort, c'est parce que c'est Jésus qui a accepté de mourir pour nous. Et que parce qu'il est mort, nous pouvons avoir la vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, la mort, mais qu'il ait la vie éternelle. Si cet homme a pu être délivré de ces choses-là, c'est parce que Jésus s'est chargé des péchés de cet homme. Il nous est dit qu'il ne portait point de vêtements, qu'il était dans la nudité, dans la honte. Mais il nous est dit de Jésus qu'il a accepté de se dépouiller de sa gloire pour revêtir la forme d'un serviteur et qu'encore quand il était serviteur, il s'est humilié. Il nous est dit que lorsqu'il était à la croix, on lui a enlevé ses vêtements et on les a partagés. Et on voit au final que si cet homme a pu être trouvé vêtu, c'est ce qui nous était dit, c'est pourquoi? C'est parce que Jésus a accepté d'être dévêtu. Si cet homme a pu retrouver sa dignité, c'est parce que Jésus a accepté de l'enlever, la sienne, de se dépouiller de sa gloire. Mais pourquoi il s'en est dépouillé? Le but, c'était de nous revêtir, nous. Et là aussi, si cet homme a pu retrouver sa dignité, c'est parce que Jésus a accepté, lui, d'être humilié à notre place, pour nous, pour nous. Il nous est dit que cet homme, il rompait les liens. Il nous est dit aussi que Jésus, il a été lié. Vous savez, quand on est venu le chercher, lui, Jésus aussi, il avait la force. Il aurait pu les briser, les liens. Mais il ne l'a pas fait. Lui, il a accepté d'être lié. Pourquoi? Parce qu'il voulait que nous puissions être délié. Lui, Jésus, il était esclave de personne. Et pourtant, il a accepté qu'on le traite comme un malfaiteur, qu'on le traite comme un brigand. Il a accepté, il nous est dit au chapitre 6, que nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Attendez, je me suis trompé de verset. Bon. Mais il nous est dit au final que si nous, nous pouvons être délivrés, déliés, c'est parce que lui, il a accepté d'être lié comme cette brebis qu'on a amené au sacrifice. Et là aussi, c'est l'œuvre de Jésus. Lorsqu'il est allé à la croix, il a livré sa vie. Cet homme était dans la solitude et Jésus a accepté d'être abandonné, d'être méprisé. Vous avez vu verset 3, méprisé et abandonné des hommes. On voit que si Jésus a accepté de quitter sa gloire, quitter la présence de tous ses anges, même d'être abandonné par ses amis, c'est pour que nous, nous ne soyons plus abandonnés. Vous savez, à la croix, Jésus a dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi d'ailleurs ? Mais c'était pour que nous, nous ne le soyons plus jamais. Parce que ce qu'il voulait, c'est que nous soyons dans sa présence. Il nous dit cet homme qu'il était tourmenté, qu'il était nuit et jour dans les sépulcres, criant. Et on voit que Jésus, à Gethsémané, il nous est dit qu'il y a eu les angoisses, qu'il a été tourmenté à cause du poids de nos péchés. Et si cet homme a pu repartir dans le repos, c'est parce que c'est Jésus qui a accepté de subir les tourments du péché. Et là aussi, si cet homme, pareil, il y a eu un croisement, si cet homme a pu repartir en paix, c'est parce qu'il nous a dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et ce n'est pas sans raison que Jésus a pu délivrer cet homme. C'est parce que tous les problèmes de cet homme, Jésus a accepté de les prendre sur lui pour que l'homme soit délivré. La Bible nous dit, c'est Jésus qui dira, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Du repos. Et oui, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et on voit que cet homme, après, il était assis dans son bon sens aux pieds de Jésus. Il nous est dit que cet homme, on l'a vu, se meurtrissait. Et on l'a lu dans Ésaïe, pareil, au verset 5, Ésaïe 53, verset 5. « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Oui, cet homme se meurtrissait, mais Jésus l'a accepté d'être meurtri pour que l'on puisse être guéri. Et là aussi, si cet homme a pu être délivré du mal qu'il se faisait, c'est parce que Jésus a accepté, lui, d'être meurtri pour nous. C'est l'œuvre de Jésus. C'est l'œuvre de Jésus. Et on voit au final que cet homme, il était possédé d'une légion. Une légion, on l'a vu, c'était 11 000 démons, c'est beaucoup. Et on voit par contre que lui, Jésus, à un moment, quand on va l'arrêter, on peut aller le lire, c'est dans Matthieu au chapitre 26, l'évangile de Matthieu au chapitre 26. Au verset 53, quand on est venu chercher Jésus, au verset 52, alors Jésus va dire à Pierre, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Vous avez vu, il y en a un qui est possédé par une légion, mais Jésus, il avait autorité sur 12 légions. Vous voyez à peu près le rapport de puissance. C'est normal qu'il avait autorité sur eux, il les avait toutes créées. Et là, il a dit 12 légions, mais en fait, tous les anges étaient à ses ordres. On voit qu'il y avait quand même un rapport de force qui était différent. On voit que Jésus a autorité sur toute chose, et on l'a chanté. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et on se rend compte que celui qui avait la toute-puissance, il a accepté d'être cloué à la croix. Pourquoi ? Parce qu'il voulait nous délivrer. Et on voit vraiment le rapport de puissance. Il y a un homme qui était possédé par cette légion, mais si Jésus est venu et l'a délivré, c'est parce que Jésus a autorité. Et on se rend compte au final que si cet homme a pu venir à Jésus, malgré ses 11 000 démons qu'il pouvait y avoir en lui, qu'est-ce qui peut nous empêcher, nous, de nous approcher de Jésus? Je vous pose la question. Rien. Rien ne peut empêcher un homme de s'approcher de Jésus. Combien même il y en aurait 12 légions, ça ne l'empêcherait pas. Rien ne peut empêcher un homme de s'approcher de Jésus. Et peut-être effectivement que vous êtes tourmenté. Peut-être que c'est à cause du péché, ou peut-être parce que c'est parce qu'il y a des esprits impurs, parce que vous avez traficoté avec des choses, vous avez touché à des choses à laquelle il ne fallait pas toucher. Mais qu'importe, quel que soit le problème, il y a une solution. Et cette solution, ce n'est pas une méthode, cette solution, c'est une personne, et c'est la personne de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cet après-midi, maintenant, Jésus-Christ est le même. Et quel que soit votre problème, combien même ce serait le même problème que cet homme-là, ou que ce serait un autre problème, ou que ce serait le problème du péché, vous pouvez venir à Jésus-Christ et vous approcher de lui par la foi. Dans Ésaïe, le texte commençait « Qui a cru ?» Et par la foi, si vous mettez votre confiance dans la parole de Dieu, si vous mettez votre confiance dans ce que dit la Bible, dans la personne de Jésus, dans ce qu'il a fait à la croix, quel que soit votre problème, si vous avez besoin de pardon, Jésus pardonne, parce qu'il a été meurtri pour nos péchés. Si vous avez besoin de paix, Jésus donne la paix. Si vous avez besoin d'amour, Jésus donne l'amour. Si vous avez besoin de dignité, Jésus rend la dignité. Si vous avez besoin d'une guérison, Jésus donne la guérison. Si vous avez besoin d'une délivrance, Jésus délivre encore aujourd'hui. Alors la question, c'est qui veut s'approcher de lui? Et je vous invite à courber vos fronts. Et on va prier. Et je vous propose qu'on puisse s'approcher de ce Jésus. Et rien ne peut vous empêcher de venir à lui. Mais il faut que ça vienne de vous. Merci Seigneur Jésus parce que nous pouvons nous approcher de toi. Et merci parce qu'au final, c'est toi qui t'es approché de nous. Et merci parce que cet homme, malgré la misère dans laquelle il était, tu lui as cherché et tu es venu pour le délivrer, Seigneur. Tu as traversé les cieux, tu as parcouru la terre et tu as cherché ceux qui étaient perdus pour les délivrer. Et merci parce que par ton esprit encore, aujourd'hui, tu cherches ceux qui sont perdus pour les délivrer, pour leur faire du bien, pour les sauver du péché, pour les sauver des esprits impurs, pour sauver de toutes sortes de choses. Et simplement merci Seigneur Jésus. Tu vois nos cœurs et tu vois tous ceux qui ont besoin de cette guérison, qui ont besoin de ce pardon, qui ont besoin de cet amour, qui ont besoin de délivrance. Et Seigneur, merci parce que tu es là pour le donner. Et merci Seigneur pour ces instants. Que ton nom soit béni Seigneur Jésus. Amen.